Ce soir, Vent d'Orage vient à la rencontre de Ned Grujic qui présente le Marchand de Venise au Lucernaire. Bonsoir Ned.
Bonsoir David.
Alors j'avais une première question à te poser avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de la pièce. Mm-hmm. Tu as un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que tu présentes beaucoup de spectacles. Tu en as monté une vingtaine. Trentaine ?
Non, un peu plus, mais je les compte pas.
Plus que ça, tu les comptes pas.
Je les compte pas.
Mais moi, je suis assez impressionné par le nombre de spectacles que tu as pu monter. Beaucoup dans l'univers des enfants, mais pas seulement. Mm-hmm. Cette pièce en est la démonstration. Et tu as la particularité, en plus, d'animer, de diriger une école de comédie musicale. Absolument. J'aimerais que tu puisses nous en dire deux mots et que tu m'expliques comment t'es venue cette idée saugrenue d'être à la fois metteur en scène et... directeur d'école.
Bon, après, c'est sur des occasions qui se présentent toujours. Hein, quand on travaille dans le spectacle, il y a toujours des rencontres qui font que ça emmène vers une voie ou une autre. Alors évidemment, metteur en scène, ça je le suis depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Hein. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça, c'est le cas. Voilà, j'ai toujours été un metteur en scène éclectique parce que j'aime voyager dans divers univers, j'aime différentes formes de narration, j'aime aussi travailler avec des artistes d'horizons divers. Je travaille avec bien sûr des comédiens, je travaille avec des comédiens chanteurs-danseurs, je travaille avec des gens de cirque, je travaille avec des chanteurs lyriques, avec des orchestres, avec des, je mets en scène aussi des tours de chant, des concerts. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de rencontres dans tous ces milieux qui m'ont fait confiance aussi, et tous ces artistes qui me font confiance depuis très longtemps. Donc effectivement, j'ai la chance de pouvoir monter beaucoup de choses et de pouvoir faire beaucoup de créations. Ça peut aller de 2 à 7 créations par an, ça m'est même arrivé d'en faire 10. Donc effectivement, c'est un sacré bagage et ça me fait des plannings bien remplis. Après, la direction de l'école de comédie musicale de Paris, je l'ai prise maintenant il y a 4 ans parce qu'un de mes collègues comédiens et metteur en scène qui s'appelle Guillaume Bouchède, qui lui dirigeait à l'époque l'école, voulait un peu lever le pied et se consacrer un peu de manière un peu plus importante à sa carrière de comédien et qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance. Donc ça m'a fait très plaisir qu'il me le propose. Et puis il m'a dit, tu es aussi metteur en scène, tu fais pas mal de choses sur Paris, donc j'aimerais que tu montes l'école d'un cran au-dessus. C'était en tout cas tout ce qu'il souhaitait pour cette école. Effectivement, l'idée pour moi, c'était vraiment de prendre tous ces étudiants. C'est une formation professionnelle, donc on prend très peu d'étudiants par an.
Qualifiante, diplômante.
Alors elle est diplômante, c'est pas un diplôme d'État, c'est diplômant. Après le diplôme dans ces métiers-là, je dirais qu'il est plutôt, il est secondaire et plutôt symbolique. Mmh. En tout cas, il sanctionne effectivement chez nous 3 années de formation très intensive, puisqu'en fait moi j'ai ajouté à une formation qui était évidemment composée de beaucoup de cours. Évidemment chant, danse, théâtre, mime, comédie musicale, danse classique, claquette, chant, etc. Moi en arrivant, j'ai, en tant que metteur en scène et directeur artistique, je me suis dit que c'était important que les élèves, à côté des cours, puissent également jouer et se former sur scène. Donc en fait, ils jouent des spectacles, je leur mets en scène des spectacles qu'ils jouent très régulièrement, ce qui fait qu'au bout des 3 ans, quand ils sortent de l'école, ils sont employables tout de suite. C'est-à-dire ils savent ce que c'est qu'être sur scène, ils savent ce que c'est que de jouer une série de représentations, ils savent ce que c'est que de jouer dans la lumière avec des micros, enfin...
Donc voilà. Tu les pousses à aller vers autre chose qu'une simple théorie et
voilà.
En fait des scénettes jouées dans une cour de classe, mais à aller vraiment sur
vers
scène.
Vers des rôles, sur
et
scène.
Et donc tu alimentes en fait un peu tes propres productions, tes propres mises en scène avec des élèves de cette école d'ores
oui.
et déjà.
Oui, oui. Alors effectivement, j'en fais travailler quand ils sortent de l'école. J'en fais travailler aussi sur tes productions. Bien évidemment, pour plusieurs raisons. C'est vrai que d'une part, j'ai envie aussi de les aider à rentrer dans ce métier, à démarrer, parce que c'est important aussi quand on est jeune, on a aussi besoin de gens qui vous fassent confiance pour vous aider, vous propulser. Et puis aussi, ces jeunes artistes, alors jeunes, ces jeunes artistes, les plus jeunes ont 18 ans, mais on a maintenant aussi des élèves qui ont 33, 34 ans, donc ça c'est quand même assez important comme tranche d'âge. C'est vrai qu'aussi, ben, on les forme. Moi et leurs professeurs, on les forme aussi à être des gens employables, c'est-à-dire ils savent comment, ils connaissent notre langage, nos codes, donc c'est plus facile aussi de travailler avec ces gens-là qu'avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et où on pourrait avoir de mauvaises surprises. Après, j'ai toujours été pour la transparence, l'honnêteté, et en comédie musicale, les artistes passent toujours des auditions pour être pris, et eux passent des auditions, et moi je leur fais passer des auditions.
Pour intégrer l'école.
Pour intégrer l'école, et après quand il y a des auditions pour être vraiment dans les spectacles professionnels, ils passent aussi les auditions, c'est-à-dire que bah, s'ils sont très bons, ils sont pris, mais si il y a mieux qu'eux,
Il
ou
passe
qu'il
à
y a
la
des gens,
trappe,
ils passent à la
la
trappe,
règle.
comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de concession. Donc, les élèves savent que quand ils rentrent dans l'école, s'ils ont la chance de pouvoir rentrer dans l'école, en tout cas, ça ne veut pas dire du tout qu'ils sont sûrs de trouver du travail en sortant avec leur prof ou avec leur directeur. Donc voilà, on a
Alors,
ça
en
dans
étant
l'esprit.
directeur d'une école de comédie musicale et en faisant autant de créations, bien évidemment, Ned Grugic est un metteur en scène richissime. C'est la
Oh là
démonstration avec cette nouvelle pièce présentée au
là.
Lucernaire qui déborde de moyens.
Absolument.
Absolument.
On ne sait plus quoi faire de l'argent.
Bien, c'était une manière un peu provocatrice d'introduire la question de ce spectacle qui est tout sauf, je dirais, ostentatoire, mais qui joue par contre sur des petites astuces de mise en scène qu'on ne révélera pas trop à l'occasion de cette interview. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce que tu proposes au Lucernaire, qui est une pièce de William Shakespeare, qui n'est pas du tout, à mon avis, la pièce la plus connue et la plus montée.
Oui, absolument.
On voit souvent des pièces de répertoire comme Hamlet, comme Roméo, comme Songe d'une nuit d'été,
Oui,
mais
tout à
Le
fait.
Marchand de Venise, ça fait un bon moment que moi je ne l'avais pas vu monter. Pourquoi le choix justement d'une pièce un peu plus obscure ou en tout cas moins exposée que d'autres œuvres de Shakespeare?
Bah, moi je suis un fou de Shakespeare, hein, il faut quand même le dire. C'est vrai que ça fait des années que je travaille autour de cet auteur. Et j'ai aussi envie, d'une part, de monter des choses un peu moins connues. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de monter Hamlet, je l'ai déjà fait. J'ai déjà en tout cas fait une première version d'un Hamlet, j'ai déjà monté un Songe d'une nuit d'été, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant aussi de faire découvrir, et c'est un risque, hein, de faire découvrir des pièces un petit peu moins connues. En tout cas au public parisien déjà, et puis français aussi, puisque les spectacles tournent souvent voilà, en
En
France,
province, oui.
en province. Après, je connais bien moi cette pièce Le Marchand de Venise, qui pour moi fait partie des grandes pièces de Shakespeare, mais c'est vrai qu'elle est assez peu souvent montée, surtout parce qu'elle est très polémique, puisque effectivement la figure centrale de la pièce, c'est le personnage de Shylock, donc qui est un usurier juif. Et que c'est. Disons que ce personnage a cristallisé beaucoup de débats au fur et à mesure des années et de notre histoire
Parce qu'on pouvait la taxer,
mondiale.
on pouvait taxer ça un peu
Bah, on la
d'antisémitisme.
taxe d'antisémite, la pièce. On dit que c'est la pièce de Shakespeare qui est antisémite, etc. Or, il faut savoir que cette pièce, elle est écrite en 1600, que l'antisémitisme tel qu'on. Enfin, en tout cas, ce qu'on entend par antisémitisme aujourd'hui n'avait pas du tout cours à l'époque, bien évidemment, que on présente ça dans un petit prologue dans la pièce. Si vous venez la voir, vous en saurez un petit peu plus. Mais c'est vrai que on prévient les gens à la base. On leur dit voilà, cette pièce est écrite en 1600. Les Juifs à l'époque étaient donc et ceux qui faisaient finalement tourner le commerce à Venise, qui était très très riche et qui était une ville commerçante. Et voilà, c'était ceux qui avaient le droit de faire de l'usure, puisque les chrétiens n'avaient pas le droit de faire de l'usure. C'était interdit.
J'allais y venir,
Ouais.
j'allais justement te poser la question, en tout cas rebondir sur ce que tu disais, c'est que on peut effectivement y voir une dimension antisémite, Mais il faut remonter à l'origine du prêt,
oui.
qui était strictement interdit aux chrétiens, et c'est un peu pour ces raisons, enfin même grandement pour ces raisons, que les juifs se sont un peu spécialisés et ont fait ce que les chrétiens refusaient eux-mêmes de faire.
De faire exactement. Et
donc ils venir les taxer obligés. Après d'être des mauvaises gens qui faisaient des sous,
oui, oui, c'est ça.
À prêter de l'argent, c'était quand même un peu fort de café.
C'était fort de café. Et il y avait déjà à l'époque cette espèce d'intolérance. Et en fait, le nerf de la pièce, c'est vraiment cette intolérance entre Antonio, le marchand chrétien, et Shylock, le marchand juif. Et la force de cette pièce, je trouve qu'on ne prend jamais le temps de lire comme elle devrait l'être, c'est que ces deux antagonismes, ce sont deux religions qui s'affrontent, ce sont deux philosophies qui s'affrontent, et aucun n'est le bon et aucun n'est le mauvais. C'est-à-dire, ils ont
des personnages un peu bordés l'un comme l'autre.
Bah, tous les deux, c'est-à-dire vraiment. Et ce qui reste souvent dans l'image d'Épinal, qui fait qu'on taxe la pièce d'antisémitisme, c'est qu'on dit c'est Shylock le méchant juif et Antonio le gentil marchand chrétien. Ça n'a jamais été ça, et quand on lit la pièce, quand on la lit correctement et qu'on prend le temps de la lire, on s'aperçoit qu'il y a vraiment. C'est mis en balance, il n'y a pas du tout. Voilà, c'est pas manichéen du tout.
Du tout. Les personnages sont tous au flis et il oui. n'y a pas les blancs d'un côté, les noirs de
mais
l'autre.
Non, pas du tout, bien
Ce
sûr.
Ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, c'est que c'est une pièce, moi, pour ma part personnelle, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touché dans le cinéma, dans le théâtre, c'est celui de la rédemption.
Oui.
Et au final, même si on ne va pas dévoiler ni le déroulement, ni l'issue de la pièce, c'est une pièce qui invite au pardon.
Oui. Ah oui.
Toute chose.
Et qui fait beaucoup réfléchir, en tout cas, ça c'est clair.
Et ce qui est assez drôle en plus, c'est que cette notion de pardon va beaucoup se cristalliser sur un personnage féminin,
oui.
Et qui va un peu mettre le nez dans le caca de toute cette population masculine,
oui.
Très fade elle-même.
J'acquiesce complètement. Là, c'est vrai que la lumière vient vraiment du personnage féminin. Et là, c'est extraordinaire parce que, enfin, moi, je suis toujours épaté par le mode d'écriture des personnages féminins chez Shakespeare, parce que à l'époque, les femmes étaient jouées par des jeunes hommes, et malgré ça, puisqu'on n'avait pas, les femmes n'avaient pas le droit d'être comédiennes, ben malgré ça, il y a quelque chose de très enfin, c'est assez féministe, dans le bon sens du terme. Hein. Mmh. C'est vraiment la femme qui triomphe, qui est malicieuse, qui règle les problèmes de ces messieurs, qui sont dans leur société d'hommes, de mâles.
Avec beaucoup d'intelligence, de malignité.
Malignité.
Et d'humanisme.
Ouais, voilà, c'est vraiment le personnage humaniste par excellence. Et le personnage est très fort. Elle a toute une tirade sur la clémence qui est très très intéressante, et je trouve qu'elle est très intéressante à entendre de nos jours. Oui, c'est un texte qui a tellement.
À l'époque, on cloue facilement au pilori de nouveau.
Ah oui, ah oui.
L'époque des dénonciations assez sordides.
C'est fou parce que. Oui, c'est fou. Et c'est fou parce qu'on avait un débat hier avec justement des étudiants qui étaient en prépa et qui donc travaillaient sur le marchand de Venise, sur la pièce en anglais. Et je leur disais, c'est fou de voir que voilà, cette écriture en 1600, moi, l'adaptation que j'en ai faite est une adaptation évidemment où j'ai beaucoup tranché dans le vif, puisque la pièce dure 1h15, alors que la pièce originale dure 3 heures, donc j'en ai vraiment beaucoup enlevé. J'ai resserré complètement sur l'intrigue principale, donc ce qui fait qu'on assiste vraiment pendant 1h15, je dirais, à une espèce de thriller, quoi, à un thriller humaniste, on va dire. Et je leur disais, c'est fou, parce que j'ai rien changé, j'ai coupé, mais j'ai pas changé le texte, absolument pas du tout. Et on l'entend aujourd'hui, et on se dit, ça fait tellement écho, c'est terrible, d'ailleurs, la manière dont ça fait écho. Parce que vraiment, hein, les choses n'ont pas vraiment beaucoup bougé.
Mais c'est là aussi où, justement, l'intérêt de monter une pièce comme celle-là prend tout son sens.
Oui.
On pourrait trouver ça désuet, archaïque, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est malheureusement plein de résonances d'actualité.
Ah oui, mais vraiment.
Alors moi, il y a une autre question que je voulais te poser qui concerne un peu scène d'ouverture.
Oui.
Les rapports entre les personnages masculins sont empreints d'une certaine ambiguïté. Est-ce que c'était déjà la volonté de Shakespeare dans l'écriture, ou est-ce que c'est toi qui as pris ce parti
Disons que
on est proche de rapports amoureux.
Oui, mais pour moi c'est écrit. Moi je l'ai lu comme ça. J'ai lu la pièce. Je l'ai lu comme ça. J'ai reçu ces personnages comme ça. Après, oui, il y a un rapport ambigu. Après, qui manipule qui, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi parfois des rapports de manipulation. Parfois, pas forcément pas forcément calculé. Mais de toute façon, il y a une interdépendance entre les personnages masculins, notamment le marchand et le jeune Bassanio.
Mais le jeune Bassanio semble jouer sur son pouvoir d'attraction,
voilà, d'attraction sur sa jeunesse.
Marchand, et le marchand joue aussi de sa capacité à l'aider et à jouer les bons princes, sans doute aussi avec quelques idées derrière la tête, même s'il le laisse finalement s'échapper pour une amoureuse.
Oui, absolument.
Et non pas lui-même,
comme
on aurait pu l'imaginer dans les tout premiers instants.
Voilà, exactement. En fait, ce que je trouve très fort dans ce rapport-là, au départ, c'est qu'il y a quelque chose qui est très ambigu, mais qui n'est pas dit. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que ce jeune homme, il joue un peu tous ses pouvoirs de séduction face à cet homme plus âgé pour obtenir du prêt d'argent, parce que non, c'est un jeune homme, donc il est il dépense beaucoup, il aime vivre, c'est un jouisseur, un jeune jouisseur, et il joue beaucoup sur son pouvoir d'attraction comme ça. Et puis à partir du moment où il y a ce pacte et cette horrible chose qui se passe, c'est-à-dire où finalement Antonio s'endette vraiment et qui doit payer par une livre de chair que Shylock a demandé, quand il doit payer ce tribut, je pense qu'à partir de ce moment-là, le jeune Bassanio est lié par un pacte qui est un pacte de sang pour moi, vraiment. Donc à partir de ce moment-là, comment le rapport évolue entre Antonio et Bassanio? Est-ce que ça devient quelque chose de fusionnel, voire de passionnel? Voilà, pour moi en tout cas, ça va vers ça.
Il y a un point d'interrogation qui pèse.
Il y a un point d'interrogation, et je trouve que c'est intéressant qu'il y reste.
Absolument.
Voilà, alors il y a des théories là-dessus aussi. Il y a des metteurs en scène qui disent il est non, absolument pas, il n'y a absolument pas de rapport ambigu entre Bassanio et Antonio. Moi, je ne vois pas comment. Voilà, quelqu'un qui va payer de sa vie à quelqu'un d'autre, je vois pas comment il peut pas y avoir une fusion quelque part. Voilà. Après, c'est pas forcément charnel, c'est pas... Peut-être que si, enfin...
J'ai parlé d'ambiguïté.
Et voilà, et moi je trouve que, voilà, je trouve que bah, on se fait un peu le... Voilà, chacun se fait aussi son, j'allais dire, son film là-dessus, quoi.
Moi, je n'y aurais pas forcément pensé de manière aussi évidente si j'avais pas vu un film récemment,
oui.
Celui d'Anne Fontaine, qui s'appelle Marvin ou La Belle Éducation,
ouais.
Et où quelque part il y a aussi ces questionnements, peut-être c'était à l'inspiré de Shakespeare d'ailleurs, sans l'avouer,
ouais.
Ou sans s'en rendre compte, mais c'est un personnage qui arrive de province, qui est homosexuel, veut devenir comédien à Paris parce qu'il veut expulser toute la haine et toute l'amertume qu'il peut avoir en lui, attaché à son milieu, qu'il n'acceptait absolument pas son homosexualité, et il va tomber amoureux, en tout cas il va avoir une relation assez fusionnelle avec un riche garçon, et pour le coup il va s'en éloigner, non pas pour une autre relation amoureuse hétérosexuelle pour le coup, mais pour finalement monter son propre projet, et accompagné en l'occurrence d'une comédienne beaucoup plus expérimentée et qui va bien évidemment accélérer le processus et lui donner une exposition à laquelle il n'aurait pas pu prétendre comme ça en arrivant à Paris, qui n'est autre que Isabelle Huppert jouant son propre rôle dans le film. Donc je t'invite à le voir,
ouais,
parce que peut-être que tu vas voir
des similitudes, des parallèles
à faire. C'est peut-être un peu osé, mais en tout cas je t'invite à...
Je
termine toujours mes interviews, enfin toujours non, mais souvent par une question un peu idiote.
Ouais.
Comment Ned Grugic peut nous donner envie de venir au Lucernaire pour voir cette pièce, Le Marchand de Venise? Est-ce que ce sont les comédiens? Est-ce que c'est le décor? Est-ce que c'est l'atmosphère?
Bah, pour moi, c'est surtout si vous. Enfin, moi, je dirais que oui, bien sûr que ce sont les comédiens, parce que oui, ils sont formidables, ils sont même assez bouleversants. Moi, je me fais toujours avoir hein, quand je vais voir le spectacle. Je trouve qu'ils donnent tellement, ils sont tellement dans l'incarnation. En tout cas, c'est sûr que voilà, si vous voulez aller voir des personnages qui incarnent comme ça, on est très proche d'eux. Au Lucernaire, c'est une petite salle. C'est intéressant d'aller voir ça parce que.
Et dans le rapport physique d'ailleurs, qui est très intime et très
Toujours,
doux, très.
ouais. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de, oui, il y a quelque chose de très physique, il y a quelque chose de très charnel. Il y a un don de soi qui, pour moi, est la chose la plus importante au théâtre, en tout cas de mon point de vue. Et là, il y a tout ça, il y a une vraie générosité des acteurs. Et puis il y a cette heure et quart où on se plonge dans Venise en 1600, dans l'intrigue
Il y a un vrai suspense dans
Il y a un
cette pièce.
suspense, ouais. Ce que je disais, c'est vraiment un thriller. C'est-à-dire que voilà, pendant 1h15, on part ailleurs, on sort du spectacle, voilà, on a vécu quelque chose de fort pendant 1h15. Voilà, et si je pense que ça vaut le coup en tout cas de faire le voyage avec eux.
Ok. Alors c'est donné du mardi au dimanche,
Oui,
c'est ça,
absolument.
avec des horaires variables. Je vous invite à aller visiter le site du
C'est
Lucernaire.
20h.
Et le
C'est 20.
dimanche, il n'y a pas
Et le
une
dimanche, c'est à
matinée.
17h.
C'est à 17h,
Voilà.
donc une matinée le dimanche. Et c'est donné jusque.
Au 1er avril.
Jusqu'au 1er avril. Merci, Ned Grujic.
Merci
À
d'être
très
là.
bientôt et bonne
À
chance pour cette
bientôt.
pièce.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.